Alors, pour l'enseignement, on continue le texte de Rinpoché. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Rinpoché est un lama tibétain. C'est l'autorité spirituelle du centre Alus, donc d'ici aussi, en tout cas le groupe qu'on appelle le Chöning de Colmar. Rinpoché a donné ce texte. C'est une compilation en fait d'enseignements que Rinpoché a donné, et on a appelé, quand on a traduit ce texte de l'anglais, on l'a appelé En route vers l'éveil, parce que dans ce texte, Rinpoché explique les fondements des trois grands courants bouddhistes, à savoir le petit véhicule, le grand véhicule et le Vajrayana. Alors vous allez m'aider. Le petit véhicule, qu'on appelle le Theravada, ou Rinpoché l'appelle le Shravakayana. On va plutôt utiliser ce terme-là que petit véhicule, hein, parce que petit véhicule, il y a un côté un peu péjoratif maintenant dans cette expression. Quels sont les pays les plus représentatifs aujourd'hui de ce courant bouddhiste? Thaïlande? Birmanie? Le? Non, pas du tout. Le Laos, Cambodge et Sri Lanka. Quand vous allez dans ces pays-là, la forme de bouddhisme que vous voyez, c'est vraiment le Shravakayana. Ensuite, le grand véhicule qui s'appuie sur les sutras. Alors, le Shravakayana suit tous les enseignements des sutras. Les sutras, ce sont ces enseignements publics que le Bouddha a donnés. Ensuite, le Mahayana, donc le grand véhicule qui s'appuie également sur les sutras. Quels sont les pays les plus représentatifs aujourd'hui? Le bouddhisme zen. Le zen le bouddhisme zen fait partie de cette école-là. C'est le grand véhicule qui s'appuie sur le sutra. Vous avez le Vietnam, la Chine. Bon, la Chine, ça a un peu disparu, mais ça revient. Vous savez que le Dharma en Chine, eh bien, reprend un peu force et vigueur. Notamment, il y a des lamas tibétains qui sont appelés en République de Chine pour faire revivre des monastères et pour réenseigner. Bien. Et puis, le Vajrayana, c'est ce qu'on appelle le véhicule du diamant. Le Vajrayana, c'est les enseignements qui s'appuient principalement sur les tantras, d'autres formes d'enseignements que le Bouddha a donné. Et je dis principalement parce que beaucoup trop de personnes pensent que le bouddhisme tibétain, donc le Vajrayana, eh bien, ne s'appuie que sur les tantras. C'est une erreur. Les sutras sont enseignés également dans le Vajrayana, dans le bouddhisme tibétain. Et vous avez dans le Vajrayana une école japonaise qui utilise les tantras aussi, c'est le Shingon. Donc, dans le bouddhisme tibétain, dans le Vajrayana, vous avez tous les enseignements donnés par le Bouddha. À la fois les enseignements basés sur les tantras, mais aussi tous les enseignements qu'on trouve dans les autres écoles du bouddhisme, dans le Shravakayana et dans le grand véhicule. Et le bouddhisme tibétain, le Vajrayana, hein, fait partie du grand véhicule. Bien. Donc, Rinpoché, on est pour le moment, et ce soir c'est la dernière soirée sur le Shravakayana, hein, les fondements du Shravakayana, eh bien Rinpoché va développer dans ce véhicule les quatre nobles vérités qui forment vraiment la colonne vertébrale de tous les enseignements bouddhistes, quels qu'ils soient. Et je trouve que dans le bouddhisme tibétain, on ne parle pas suffisamment des quatre nobles vérités, parce que c'est vraiment les fondements de la doctrine bouddhiste. Et quelles sont ces quatre nobles vérités? Tous les êtres, alors qu'ils aspirent au bonheur, rencontrent dukkha. Et dukkha, c'est un terme, je crois qu'on aurait mieux fait de ne pas le traduire, de garder le terme sanskrit. Hein, parce qu'on traduit dukkha par souffrance, mais ça donne ce côté un peu doloriste du dharma, du bouddhisme. Il y a des personnes qui ne sont pas bouddhistes et qui nous disent: oui, dans le bouddhisme, vous êtes toujours en train de parler de la souffrance. Oui, on parle de dukkha, ça c'est sûr. Et c'est la souffrance physique, la souffrance morale, mais c'est la moindre contrariété aussi, on rencontre dukkha. Et donc, fait partie de dukkha. Donc, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, nous n'avons pas rencontré Dukkha. Même si l'on n'est pas malade, ou même si l'on n'a pas reçu une mauvaise nouvelle et que moralement, ça va à peu près. Mais on a rencontré quand même des situations depuis ce matin et qui n'allaient peut-être pas dans le sens où on voulait vraiment que ça aille. On a été contrarié, on a été insatisfait, on a été frustré, etc. Donc on a rencontré Dukkha. Et ça, ça va avec le fait que ça rejoint ce que le Bouddha disait, alors qu'on cherche à être heureux, eh bien nous rencontrons constamment Dukkha. Bon, ça c'est la première constatation, la première expérience que nous devons faire quand nous nous intéressons à la voie bouddhiste. Parce que tout l'objectif de la voie bouddhiste, c'est se libérer de Dukkha. Et comment montrer le chemin de la libération ensuite, comment libérer tous les êtres. Mais donc, nous devons prendre conscience de Dukkha et nous devons eh bien, aspirer à quitter Dukkha, à nous libérer de Dukkha. Et pour pouvoir s'en libérer, eh bien, nous devons passer à la deuxième noble vérité, c'est l'origine de Dukkha. Qu'est-ce qui produit Dukkha? Est-ce que ce sont les situations extérieures qui sont à l'origine de notre mal-être, de notre contrariété, voire de notre souffrance? Ou est-ce que c'est plutôt le fonctionnement de notre esprit, c'est-à-dire notre façon de réagir par rapport aux situations, par rapport à notre environnement? Et ça, c'est plutôt la voie bouddhiste, la vue bouddhiste. La vue bouddhiste consiste à ne pas reporter fondamentalement la cause de Dukkha sur les situations. Évidemment que si la situation s'améliore, eh bien on va vivre cette situation différemment et elle nous sera plus agréable. Mais il y a des tas de situations que l'on ne pourra pas modifier. Si nous sommes malades, nous sommes malades. Alors on va se soigner, d'accord. Mais le fait d'être malade, eh bien ma foi, on sera malade. Donc, par contre, comment notre esprit va réagir par rapport à cela, ça nous appartient. Et on se rend compte que eh bien, c'est ce qu'on appelle la saisie, c'est-à-dire le fait de tout solidifier, de s'agripper, de s'accrocher à tous ces phénomènes, que ce soit les pensées, les perceptions, les sensations, les facteurs mentaux, etc. C'est le fait de s'agripper à ça, de solidifier tout cela, eh bien, qui fait naître Dukkha dans notre esprit. Et ça, c'est une expérience que nous devons faire dès qu'on commence à méditer, c'est observer que c'est ce fonctionnement de l'esprit qui fait naître Dukkha. C'est important parce que si on repère que la cause, si nous sommes conscients que la cause est dans notre esprit, alors la cause de la libération est dans notre esprit aussi. Et ça, c'est la troisième noble vérité. C'est-à-dire qu'il y a une cessation possible de Dukkha, mais pour cette cessation, nous devons faire cesser la cause. C'est-à-dire, en fait, le fonctionnement ordinaire de notre esprit, comment le modifier et comment fonctionner autrement. Et c'est là où la méditation est tellement importante parce que la méditation consiste à travailler sur notre esprit et à transformer notre esprit. Alors, ça va prendre du temps, évidemment, mais l'esprit peut fonctionner autrement, peut se transformer. Donc, en fait, la cause de Dukkha, c'est notre esprit, mais la cause de la libération, c'est notre esprit aussi. Et alors, la quatrième noble vérité, eh bien, c'est le chemin qui va conduire à cette transformation, donc à cette cessation de Dukkha. Et ce chemin, on l'appelle l'octuple sentier parce qu'il y a 8 aspects. Et donc, les mois derniers, nous avons vu les 7 premiers aspects. Et ce soir, nous voyons le dernier. Ce qui, dans ce texte, mais bien souvent, on appelle la concentration juste. Et vous savez que je n'aime pas trop le mot concentration parce que ça ne traduit pas correctement le terme tibétain qui se dit samten. Samten, littéralement, veut dire esprit stable. Esprit stable, donc esprit non distrait. Et ça n'est pas du tout l'image d'un esprit concentré sur un point, hein, pointu, focalisé, voilà, sur un point et qui oublie tout le reste. Non, l'esprit stable, c'est-à-dire que l'esprit n'est pas distrait par l'ensemble des phénomènes. qu'il perçoit et qu'il expérimente. Donc, en fait, l'esprit peut être très large, et dans cet espace qu'est l'esprit, tous les phénomènes peuvent apparaître, peuvent se développer. Il n'y a pas à rejeter tel ou tel phénomène. Par contre, on peut apprendre à notre esprit de ne pas suivre ces phénomènes, de ne pas se laisser distraire par ces phénomènes. Voilà. Donc ça, c'est très important de comprendre ça, parce que beaucoup de personnes, quand elles abordent la méditation, elles ont des idées fausses par rapport à la méditation. Interrogez les personnes autour de vous et posez-leur la question de savoir qu'est-ce que c'est que la méditation. La plupart vont vous dire il faut faire le vide. Il n'y a rien à vider, je suis désolé. Et les autres vont répondre, on médite pour ne plus avoir de pensée. Et alors ça, vous pouvez vous y atteler tout de suite. Bon courage. La conscience mentale, si elle fonctionne, eh bien ma foi, on a des pensées. La conscience visuelle, elle fonctionne. Si on a l'organe visuel, eh bien on va voir. Qu'on le veuille ou non, on va voir. Et donc, qu'on le veuille ou non, eh bien, si la conscience mentale fonctionne, eh bien, on pensera. Donc, même le Dalai Lama, il pense. Alors, il y a peut-être moins un flot de pensée qui est un peu plus, on va dire, réduit, mais il continue de penser. La conscience mentale, eh bien, ma foi, elle fonctionne. Donc, il n'y a pas à chercher à ne plus avoir de pensée. Par contre, comment réagir par rapport aux pensées? Comment réagir par rapport à ce que la situation fait naître dans mon esprit? Ça, je peux intervenir à ce moment-là. Et je peux me libérer de cette réaction. Et c'est là où eh bien, on commence à toucher le cœur de la pratique. Donc, c'est plutôt non-distraction. Alors, en tibétain, cette non-distraction se dit shiné. C'est la pratique de shiné. En sanskrit, c'est shamatha. Shiné, shi veut dire apaiser, pacifier, et ne veut dire demeurer. Donc la méditation de shiné, la méditation de la pacification mentale, on traduit ça souvent par pacification mentale, eh bien c'est faire la paix et demeurer dans cette paix. Donc il y a cette notion de durée. On est dans cette paix, mais on demeure dans cette paix. Bien. Alors, Rinpoche prend un exemple. Concernant la méditation de Shiné, son principe peut être décrit comme suit. Si de l'eau est troublée par de la saleté, une méthode simple pour la rendre claire est de la laisser reposer. La saleté se déposera d'elle-même. De même, si l'esprit est laissé à lui-même sans interférence, ces vagues, confusions et turbulences s'estomperont peu à peu et il deviendra calme et clair. La technique est par conséquent très simple. Absolument rien du tout n'est fait. Simple à dire. Alors c'est vrai qu'on prend souvent cet exemple. Si vous avez de l'eau boueuse, que vous secouez le verre, et ben, ma foi, tout est boueux. Vous posez le verre, vous revenez un quart d'heure après, la terre c'est... déposer au fond et l'eau est devenue claire. Donc en fait, il faudrait faire comme ça avec son esprit. Laisser reposer son esprit. Mais laisser reposer son esprit, c'est ce que disait Rinpoche, maintenant il ne le dit plus. Mais quand des fois on allait voir Rinpoche en lui disant « Mais quelle est ma pratique ?» Et Rinpoche nous disait « Just relax ». Maintenant il ne le dit plus. Parce que « Just relax », les gens repartaient en se disant « Bon, ça va ». Je m'en fais pas à quoi. Non, c'est être très détendu, d'accord, très relaxé, mais extrêmement conscient en même temps, quoi. Donc c'est pas l'opacité mentale, c'est pas une relaxation pendant laquelle on va s'endormir, pas du tout. Si vous vous endormez pendant une méditation, vous n'êtes pas du tout, mais alors pas du tout dans la méditation. C'est un obstacle. Donc c'est être très détendu, mais en même temps. Très conscient de tout ce qui se passe, intérieurement, extérieurement, etc. Donc on ne se coupe de rien. Donc la technique est par conséquent très simple. Absolument rien du tout n'est fait. Mais bien sûr, ne rien faire n'est pas si facile. C'est pourquoi il nous faut commencer par faire quelque chose, pour occuper très légèrement notre esprit, l'occuper juste assez pour qu'il ne puisse s'y passer trop de choses. Alors, Rinpoche ensuite décrit tout d'abord la posture physique comme étant très importante. Alors, on ne va pas la reprendre, c'est une posture en 7 points, mais les deux points principaux sont les deux points qu'on a évoqués tout à l'heure. Pourquoi cette posture physique est tellement importante? Parce que le corps et l'esprit ne sont jamais séparés. On dit que le corps est le reflet de l'esprit. À tel point que, par exemple, dans l'hindouisme, avec le biais du yoga, eh bien, agir sur le corps va agir sur l'esprit. Et plus on agit sur l'esprit, plus on agit sur le corps en même temps. Les deux sont complètement reliés. Le yoga qu'on fait en Occident, c'est souvent une relaxation, souvent un assouplissement. C'est vraiment un aspect très limité du yoga. Le yoga en Inde, c'est une pratique spirituelle qui utilise le corps, mais pour aboutir à une transformation de l'esprit. Donc dans la méditation, le corps est important. On ne va jamais laisser de côté le corps. Et le corps est important parce que dans le schéma subtil du corps, il y a tout ce schéma, vous savez, fait de chakras, de canaux subtils, de souffles qui circulent dans les canaux, etc. Les souffles qui circulent dans les canaux, c'est l'esprit. Et les canaux, d'après notre configuration karmique, on va dire, nos canaux sont tous mal foutus. Ils sont trop longs, trop courts, ils sont noueux, ils sont tordus. Donc, en fait, les souffles, c'est-à-dire notre esprit, eh bien, circulent mal dans ces canaux. Quelquefois, il y a des stases, ça bloque, ça ne circule plus. Il y a d'autres fois, eh bien, ça circule trop et notre esprit est alors agité ou notre esprit est, au contraire, si ça stase, si ça bloque, eh bien, plutôt lourd, endormi, etc. Cette posture que nous adoptons là, eh bien, c'est une posture qui met déjà d'emblée les canaux dans une position favorable. Et il est vrai qu'en Occident, cette posture nous est difficile, hein, mais quand on est à l'aise avec cette posture, eh bien, il y a simplement de s'asseoir comme ça, un état intérieur de stabilité déjà, de grande stabilité. Et tout de suite, on sent que l'esprit se modifie par le fait de s'asseoir dans cette posture. Cette stabilité, on peut rester 2 heures sans ressentir le besoin de bouger. Eh bien, je vous mets au défi de ne pas ressentir le besoin de bouger assis sur une chaise ou affalé dans un fauteuil ou un canapé. Au bout de quelques minutes, il faut qu'on bouge, etc. Et alors, je peux vraiment vous en parler par expérience. Plus raide que moi, j'avais rarement rencontré. Hein. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à méditer, je ne pouvais absolument pas m'asseoir. J'avais les jambes qui étaient comme ça. Il me fallait des matelas comme ça, dessous, justement, pour que ce soit plus confortable, tellement j'avais mal partout. Je suis rentré en retraite de longue durée. J'avais encore du mal à m'asseoir. Or, je flippais un peu, puisqu'on dort assis en retraite. Donc, je me disais, comment ça va se passer, quoi? Et en fait, on y arrive, quoi. Mais là je peux vraiment dire qu'on y arrive, parce que vraiment, c'était un problème, quoi. Hein? Ouais?
Ça veut dire que vous êtes en train de nous dire que méditer assis sur une chaise...
Alors non, j'allais y venir. On peut très bien méditer sur une chaise, hein, ce n'est pas la meilleure posture, mais on peut quand même méditer sur une chaise à condition d'avoir le dos droit et non pas adossé. Voilà, ça c'est important. Hein, mais plus on va méditer, plus le corps va s'assouplir. Et plus le corps s'assouplit, plus l'esprit va s'assouplir. Alors pour ceux qui sont assis sur un coussin, hein, vous savez que l'ennemi de la méditation au niveau vêtements, vous savez ce que c'est, hein? Le jeans. Alors ça tire de partout, ça coupe partout au niveau des articulations, etc. Et le problème de la posture des jambes, c'est pas la souplesse au niveau des articulations, c'est pas le manque de souplesse des articulations, c'est l'ouverture du bassin. Et parce que le bassin n'est pas assez ouvert, alors on force sur les articulations et donc on a mal aux genoux, etc. Donc il faut faire des exercices en fait pour ouvrir le bassin. Le meilleur exercice, vous savez, c'est le papillon. Hein, vous vous asseyez comme ça, vous ramenez les deux pieds le plus près du corps et vous battez des jambes comme ça pour ouvrir le bassin. Voilà. Le deuxième élément, hein, c'est le regard. Alors Rinpoche explique que le principal est de détendre les yeux. Dès qu'ils sont détendus, le corps et l'esprit le sont aussi. Sans détendre les yeux, il n'est pas possible de détendre ni le corps ni l'esprit. Certains préfèrent fermer les yeux, mais selon la tradition bouddhiste tibétaine, ils ne devraient pas être fermés complètement. Ils devraient être légèrement ouverts, sans regarder trop près ni trop loin et sans loucher. Bien, alors, le regard ne devrait pas être tendu ou concentré sur quelque chose en particulier. Bon. C'est très intéressant quand vous regardez, par exemple, un Rinpoche en train de méditer. Regardez son regard. Jamais il est fixe. Jamais il n'est tendu sur quelque chose. Nous, au début, on est là à méditer, et puis alors, on est comme ça, et on ne bouge plus. Si, dans la méditation, ce que vous regardez, il y a des auréoles qui se créent au bout d'un moment, noires ou brillantes, etc., que vous ne voyez plus vraiment l'objet, mais que la vision se modifie, ça veut dire qu'il y a trop de tension dans le regard. Ça, c'est un signe de trop de tension dans le regard. Observez Rinpoche quand il médite, il a les yeux posés comme ça, mais il bouge légèrement les yeux, il balaye légèrement devant lui, de façon à maintenir la souplesse du regard. Et on sent en même temps qu'il ne regarde rien. Il voit, mais il ne regarde pas quelque chose de fixe, quelque chose de précis. Bon, ce regard, cette façon de poser les yeux, c'est important. Et pourquoi médite-t-on les yeux ouverts? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce que les yeux fermés, ça favorise la torpeur, la somnolence. Donc, si vous méditez en fin de journée et que vous êtes fatigué par votre journée de travail, etc., et qu'en plus, vous fermez les yeux pour méditer, vous allez être sûr de piquer du nez. Hein. C'est pas le but. Ensuite, méditer, c'est établir l'attention, établir la vigilance dans l'esprit. Or, d'accord, on l'établit en étant assis sur son coussin, mais on va aussi permettre à notre esprit d'être conscient, d'être vigilant dans notre activité. Or, si on ferme les yeux en s'entraînant sur son coussin, eh bien, méditer, c'est synonyme de fermer les yeux. Et c'est difficile après, eh bien, de méditer dans l'activité. Et enfin, pour une troisième raison, c'est quand après la méditation de Chiné, on passe à la méditation de Laktong. Laktong, c'est la vision supérieure. Il faut absolument, impérativement, avoir les yeux ouverts. Donc, si pendant quelques années, vous êtes habitué à fermer les yeux pendant la méditation, ça va être difficile ensuite, eh bien, de les garder ouverts. Donc, voilà, retenez ça. Hein, le regard est important. Ensuite, dans la méditation de Chiné, l'attitude de l'esprit est ce qu'il y a de vraiment essentiel. Celui-ci devrait être complètement détendu. Pour parvenir à cet état, nous devrions d'abord essayer de sentir notre corps totalement détendu. Bien que nous soyons assis dans une position légèrement tendue, il devrait s'y trouver du relâchement et un sentiment d'espace. Quand la ficelle liant une botte de paille est coupée, la tension est relâchée et les tiges de paille tombent immédiatement en formant un cercle parfait. Il y a à la fois un relâchement et un ordre parfait. De même, nous devrions sentir cette détente depuis le cœur de notre être et laisser aller notre esprit être. C'est le principal. Tant que nous sommes dans le moment présent, nous sommes détendus. Bon, alors là, plusieurs choses. Hein. Cette détente au niveau de l'esprit, c'est très difficile à établir. Au début, on va plutôt être tendu. Et quand on veut détendre, en général, on détend trop. Donc, on est comme ça quand on médite. Et le curseur d'équilibre qu'on peut placer aujourd'hui, demain, en méditant, eh bien, il faudra déplacer le curseur ailleurs, quoi. C'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi, mais cet équilibre va changer de place, quoi. Et ça, le Bouddha expliquait que c'était long et difficile à trouver cet équilibre. Mais il prenait l'exemple de la vina, vous savez, cet instrument indien à cordes. Et il disait, si on tend trop la corde, elle casse, on ne peut pas jouer l'instrument. Mais si elle n'est pas suffisamment tendue, on ne peut pas non plus sortir un son. Donc il faut trouver en fait l'équilibre au niveau de la tension. Donc, Rinpoche insiste beaucoup sur la détente. On est speed, quoi. On est stressé en Occident, quoi. Les Français surtout, hein. Quand on voyage un petit peu, pas besoin d'aller sur d'autres continents, simplement sur d'autres pays, dans d'autres pays européens, qu'est-ce qu'on se rend compte qu'ils sont quand même plus cool, quoi. Je ne sais pas ce qu'on a, nous les Français, à être stressés de cette façon, quoi. Rien ne va, quoi. Mais vraiment, quoi, il faut vraiment... on est quand même le premier pays au monde au niveau somnifère, antidépresseur, etc. Premier pays au monde. Hein. Il faut se détendre, quoi. Lâcher, quoi, hein. Lâcher. Mais il faut trouver, en fait, cette notion de détente. Et c'est important dans la pratique, parce que si on rajoute une couche encore de tension quand on pratique, mais on se transforme en cocotte minute à la fin de la journée, quoi. Hein. C'est un problème, quoi. Et en même temps, il faut qu'il y ait cette conscience claire, quoi, cette lucidité, cette connaissance qui sait, eh bien, non seulement qu'il y a tel ou tel phénomène, mais en même temps, qui sait ce que les phénomènes font naître comme expérience, comme mouvement de l'esprit, hein, et être conscient de ce mouvement de l'esprit. Le Bouddha disait que c'est l'esprit est ce qui sait, ce qui connaît, ce qui reconnaît. Donc, ça n'a rien à voir avec l'opacité ou une espèce d'indifférence ou une lourdeur d'esprit, quoi. Ensuite, il explique que dans la méditation, pour être détendu, c'est l'instant présent. Il faut être dans l'instant présent. Alors ça, c'est une clé, hein, pour la méditation. Vous savez qu'en méditant, on laisse tomber toutes les pensées relatives au passé, toutes les pensées relatives au futur. Et en fait, on devrait se dire, bon, qu'est-ce qui se passe là dans l'instant présent? Comment est mon esprit dans l'instant présent? Comment il était il y a 10 minutes par rapport au coup de fil que j'ai reçu, par rapport à ce que j'ai vécu, etc. Ok, ça c'est fait, c'est fini. Et comment il sera dans 10 minutes? Quand je quitterai cette salle, quand je repartirai, etc. Mais ça, je verrai ça à ce moment-là, quoi. Par contre, quand on s'assoit, c'est comment est mon esprit? Là, tout de suite, ici, maintenant. Évidemment que l'état dans lequel il est, ça dépend de ce qu'on a vécu dans le passé, etc. Même dans le passé très proche. Et que cet état dans le présent, il va conditionner ce qui va se passer dans le futur et même dans le futur proche. Mais la seule réalité est l'instant présent. Le passé n'existe plus, même si nous en sommes le fruit. Mais ce passé n'existe plus. On ne peut plus intervenir sur quelque chose de passé. Comme on ne peut pas intervenir sur quelque chose qui va se produire. Donc la seule réalité, c'est l'instant présent. Et ça ramène beaucoup à la détente. Parce que dans l'instant présent, qu'est-ce que je vis? Est-ce que je vis ce que j'ai vécu il y a 10 minutes, mais pas du tout. Souvenez-vous toujours de cette histoire de deux moines, hein, qui, en Inde, alors que c'est dans le petit véhicule, dans le Theravada, dans le Sravakayana, où les moines ne doivent pas toucher une femme, ne doivent pas, hein, etc. Eh bien, ils arrivent, ils se baladent, ils arrivent près d'une rivière, et puis il y a une femme qui est là et qui ne peut pas traverser, parce qu'il n'y a pas de pont, etc. Donc elle demande leur aide. Bon, eh ben, ils la portent et puis ils la déposent sur la rive d'en face et puis ils continuent leur chemin. Et tout en continuant leur chemin, il y a un des deux moines qui dit, dis donc, mais on a le vœu de ne pas toucher une femme, on l'a touchée, donc on a endommagé nos vœux, etc. Bon. Et puis, voilà, ça rumine. Et l'autre, son copain, lui dit, mais attends, moi j'ai touché juste 5 minutes. Et toi, ça fait 15 minutes que tu la touches encore, quoi. Et ça, c'est exactement ça. Dans l'instant présent, qu'est-ce qui se passe, quoi? Ce qu'on a fait il y a 5 minutes, ben, c'est fini, quoi. Et ça, c'est très important dans la méditation. Parce qu'on ne peut pas empêcher les pensées dans la méditation, on ne peut pas empêcher les pensées relatives au passé. Et il y aura des pensées relatives au passé. On a la faculté de se mémoriser, de se souvenir, et donc la mémoire existe, et bien il y a des pensées de ce que l'on a fait dans le passé. Et il y a la possibilité de se projeter aussi dans le futur. Et même pour un grand méditant comme le Dalai Lama, il a des souvenirs et des projets. Simplement, dans l'instant présent, ces pensées-là, il les laisse passer, quoi. Il les laisse passer, il ne s'y accroche pas. Et à ce moment-là, eh bien, on se rend compte que ces pensées, eh bien, n'ont pas le pouvoir de perturber l'esprit. Donc, et l'esprit, à ce moment-là, reste détendu. Donc, cette détente qu'explique Rinpoche par rapport à l'instant présent, nous devons en faire l'expérience. Et nous devons en faire l'expérience dans cette méditation de Chine. Il n'y a pas à attendre 10 ans de méditation pour savoir que l'instant présent, eh bien, c'est un moment unique dans lequel l'esprit peut être totalement détendu. Voilà. Nous n'essayons pas d'éviter ou de nous couper de quoi que ce soit dans la méditation. Alors ça, c'est important. Parce qu'au début, eh bien, on peut avoir l'idée que, eh bien, il ne faut pas avoir ce type de pensée, par exemple, parce que ce n'est pas bien, parce que ce n'est pas moral, parce que ce n'est pas éthique, parce que ce n'est pas ce que l'on m'a éduqué, etc. Les pensées, elles n'arrivent pas comme ça par elles-mêmes. Elles sont liées à des causes et des conditions. Donc je dis toujours, si vous avez une pensée négative vis-à-vis de votre voisin qui fait du bruit depuis ce matin et que vous êtes bien fatigué à cause de ça, il y a une légitimité à avoir ce type de pensée. Par contre, comment vous allez réagir par rapport au fait d'avoir cette pensée, ça nous appartient. Et c'est là la méditation où elle intervient. Il ne s'agit pas d'éliminer ce type de pensée. Par contre, où on peut agir, c'est « Ok, j'ai ce type de pensée, mais qu'est-ce que j'en fais? Comment je réagis par rapport à cette pensée ?» Et là, la libération est possible. On peut ne pas se laisser embarquer par cette pensée, et donc si je la laisse passer, si je ne la refuse pas, mais si je ne m'y accroche pas, la colère ne peut pas naître dans mon esprit, etc. Donc, pas d'acte négatif sous l'emprise de la colère. Et ça, c'est aussi la méditation du calme mental, la méditation de Chine. Hein, on est loin de définir la méditation de Chine en termes de concentration. Hein. Y a la non-distraction, mais il y a aussi la conscience de comment fonctionne mon esprit, de comment réagit mon esprit par rapport à tel phénomène que je suis en train de vivre. J'ai bien vu tout à l'heure dans le tunnel. Un lent bain dans le tunnel, mais alors 40, 50 à l'heure, quoi. C'est déjà limité à 70. Alors, je peux vous dire, moi, je piétine derrière. Et là, je suis bien obligé de regarder ce qui se passe dans mon esprit et de me dire, bon, on va pratiquer la patience, ça va. Et je laisse passer. Hein. Parce que tout juste, si j'allais pas passer par-dessus la voiture devant, quoi. Hein. C'est-à-dire, voilà. Et c'est là où on peut se rendre compte que comment je réagis dans cet instant présent. Si je crispe là-dessus, si je saisis ça, mais ça peut rendre nerveux, il y a dukkha qui apparaît dans l'esprit à ce moment-là. On est impatient, on a envie que ça aille plus vite, on a envie de klaxonner, on devient agressif, bon, etc. Ça, c'est dukkha. Or, la situation, elle est comme elle est. Je ne vais pas le pousser, le mec devant, pas, voilà. Mais par contre, voilà, si je ne veux pas qu'il y ait dukkha, eh bien, je dois absolument réagir autrement par rapport à cette situation. Et là, on peut faire l'expérience que si je ne m'accroche pas à ça, bon, bah, tout se passe bien, quoi. Ça ne va pas comme je veux, mais mon esprit n'en souffre pas. Voilà. Et ça, c'est... Et vous savez, Beaucoup de personnes disent « je voudrais mourir sereinement », etc. On ne pourra pas mourir sereinement si, dans notre vie quotidienne, pendant des années, on ne s'est pas habitué, on ne s'est pas entraîné à lâcher ce moindre petit inconfort qui se produit. Je pense que tous les Rinpoché qui meurent, enfin tous les grands méditants qui meurent comme ça en s'asseyant tranquillement, et puis pouf, ils s'en vont sans aucune marque d'angoisse, de crainte, etc. C'est quoi? C'est le fruit de leur pratique. C'est dû au fruit de la pratique de cette transformation de l'esprit, du travail sur l'esprit. Je veux dire par là qu'il n'y a aucun miracle. Si on ne transforme pas notre esprit, si on n'entraîne pas notre esprit sur des petits trucs tout simples de la vie quotidienne, le jour où il y a un phénomène qui se produit avec une charge émotionnelle intense à ce moment-là, bah, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on reste paisible. Hein. On boira le bouillon. Hein. Voilà. Le but de la pratique est d'être conscient du moment présent et non d'y penser. Penser signifie rapporter par notre mémoire quelque chose qui s'est déjà produit et l'analyser. Dès que nous pensons, nous ne sommes plus ici, mais ailleurs. Nous devrions laisser couler. À chaque fois que nous nous accrochons à quelque chose, nous interrompons le flux. Ouais, ce courant. Hein. Alors, ne pas analyser, ne pas penser, ne pas analyser quand on médite. Il n'y a pas à essayer de comprendre pourquoi les choses se mettent en place de telle ou telle façon. Ce qui est important de comprendre, c'est comment je réagis par rapport à cela. Le pourquoi, ça peut être intéressant, mais dans d'autres domaines. Dans le domaine de la pratique méditative, on ne se pose pas trop la question de savoir pourquoi. On sait qu'il y a des causes, hein, mais par contre, comment dans l'instant présent je peux réagir par rapport à ce qui se passe? Là, il y a la clé pour me libérer. Il y a la clé de la libération. C'est très net, le week-end hein, qu'on vient de faire à Luz, c'est très net, c'était Mahamudra 2, donc c'est la vision supérieure. Et dans la vision supérieure, il y a toute une approche analytique sur la nature de l'esprit. Je peux vous dire que pour beaucoup de personnes, le week-end dernier, c'était une véritable cocotte-minute. Hein, parce que eh bien, c'est comment l'esprit est vacuité, pas de couleur, pas de ci, pas de ça, et ça rumine, et ça rumine, et ça rumine. À un moment donné, même l'analyse sur la nature de l'esprit, il faut laisser tomber. Il faut juste voir, il faut observer. Dans l'apprentissage de la méditation de Shiné, ou de n'importe quelle autre pratique de méditation, la simple lutte et le fait d'essayer délibérément sont peu utiles. Essayer trop fort ne nous aide pas beaucoup. Bien qu'un grand effort soit nécessaire, il devrait consister simplement à vouloir pratiquer encore et encore. Il n'y a pas de technique à proprement parler, dans le sens de quelque chose qui serait enseigné, appris et appliqué en conséquence. Nous apprenons en pratiquant. Voilà. Alors, c'est là où Rinpoché prend l'exemple de la natation. Alors je vous lis son expérience parce que c'est intéressant. Il dit: nous devons apprendre par nous-mêmes comment méditer, par essai et erreur. Il nous faut chuter, nous relever et recommencer. Alors ça c'est très important hein, parce que les Occidentaux qui n'acceptent pas de chuter, de faire des erreurs dans leur pratique, on a tout faux. Hein. La pratique est faite d'erreurs, elle est faite de chutes, mais simplement on essaie de comprendre pourquoi on a chuté, qu'est-ce qui a manqué, on se relève et on reprend l'entraînement de l'esprit. Mais on reprend le chemin. Alors un autre facteur qui est vraiment un gros obstacle pour la pratique, c'est la culpabilité. Hein. Se sentir coupable parce qu'on a fait une erreur, alors ça vraiment mettez ça de côté. Quoi. Et alors les Occidentaux, on est bon pour ça. Hein. Mais attention, parce que les Tibétains, dans la culpabilité, voient une marque subtile, mais ils voient quand même la marque de l'orgueil. On refuse de faire le chemin. On veut être parfait avant de faire le chemin de la perfection. Non, tant que nous serons sur le chemin, eh bien nous chuterons, nous ferons des erreurs. Donc ça, il faut l'accepter dès le début. Hein. Donc, il nous faut chuter, nous relever et recommencer. J'ai récemment appris à nager. Je n'en ai pas eu l'opportunité au Tibet et il n'y a aucune possibilité de nager dans le Sikkim où je vis. Les rivières s'abattent comme des avalanches d'épées. L'année dernière, j'ai passé quelque temps à Barcelone et j'ai été sur une très jolie plage où l'on m'a appris à nager. Je ne m'y prenais pas très bien. On me disait que je devais faire ceci ou cela. Malgré cela, ce que j'essayais ne fonctionnait pas. J'allais toujours au fond, la tête la première. Alors mon professeur m'a dit « Si vous vous allongez simplement sur le dos, vous allez flotter. » Vous imaginez un coup de chien. Cela n'a pas fonctionné non plus. À la fin, j'étais un peu frustré et je me suis dit que ce qui doit arriver, arrive. Alors, d'une manière ou d'une autre, mes oreilles ont été sous l'eau, mais pas le reste. Je flottais. C'était la plus merveilleuse des sensations. Et c'était en fait la peur qui avait empêché sa réalisation. Quand il n'y a pas de peur, on peut flotter. Et aussitôt qu'elle réapparaissait, je coulais à nouveau. Je peux flotter quand je sais que je suis en contact avec ce qui est en train de se passer. Dans la méditation, c'est exactement ça. Il ne faut rien craindre dans la méditation. Ne pas craindre, ne pas avoir peur, et des pensées, même des facteurs perturbateurs, qui peuvent s'élever dans l'esprit. Il faut être extrêmement détendu. Il faut faire l'expérience que ces phénomènes, que sont les pensées ou les facteurs perturbateurs, même si vous avez de l'irritation parce que votre voisin fait du bruit, ce phénomène-là n'a pas le pouvoir de perturber votre esprit. C'est la saisie qui perturbe l'esprit, qui fait naître l'irritation, qui fait naître une puissance à ce facteur perturbateur dans votre esprit. Si vous êtes conscient de sa présence et que vous le laissez passer, l'esprit s'apaisera. Parce que, comme disait Rinpoche, tout est flux. C'est du mouvement. Il n'y a que de l'énergie, il n'y a que une dynamique de l'esprit. Rien n'est solide, rien ne peut demeurer. Quand on dit que tous les phénomènes sont impermanents, oui, c'est ce qu'on veut dire, c'est tout apparaît, tout demeure un certain temps et tout disparaît. Il y a des phénomènes, je suis d'accord, qui demeurent plus longtemps que d'autres. D'accord. Mais tout est impermanent, c'est-à-dire que tout est mouvement. Et parce que tout est mouvement, quand on veut solidifier ce mouvement, dukkha apparaît. Oui, parce qu'en fait, c'est contre nature de solidifier. Et le problème, c'est qu'on est toujours dans la solidification de ce que vit notre esprit. On a été habitué à tout solidifier. Ce que vit mon esprit, ce n'est pas agréable. Je le solidifie parce que je le rejette. Je veux le rejeter. Et donc là, il y a une saisie. Et tant que ce n'est pas rejeté, eh bien, dukkha est dans mon esprit. Quand ce que je vis est agréable, je le solidifie parce que je veux me l'accaparer. Je veux que ça se prolonge, je veux que ça dure. Et à ce moment-là, eh bien, il y a dukkha. Il y a une espèce d'avidité, de désir, d'attachement, etc. qui naît dans l'esprit. Et donc là, c'est encore une expérience de dukkha. Mais dukkha, dans ces deux cas, n'apparaît pas par le phénomène lui-même. Dukkha apparaît par la réaction de mon esprit à solidifier ces phénomènes. C'est la saisie qui est responsable de dukkha. Et c'est mon esprit qui saisit. C'est pas les phénomènes eux-mêmes qui sont cause de dukkha dans mon esprit. Ça, il faut bien faire cette expérience. Donc, il faut beaucoup s'exercer pour simplement apprendre à se détendre. Nous ne trouverons pas cela facile. Le simple lâcher prise, laisser toutes les choses être, ne rien faire du tout, est totalement à l'opposé de notre comportement habituel. Une fois que nous sommes capables de lâcher un peu, de détendre nos muscles, notre estomac, nos épaules et pour finir nos yeux, c'est déjà en soi la méditation. La véritable signification de la méditation de Shiné est donc de ne rien faire, de simplement nous laisser être. Mais, je rajouterai, avec conscience, avec pleine conscience. Le principal est de savoir quand nous sommes distraits, dit Rinpoche. Ouais. Alors, ensuite, il explique qu'il y a deux écueils à la méditation qui peuvent apparaître. C'est la torpeur et l'agitation. Et là, il faut utiliser les antidotes et notamment utiliser le corps. Quand il y a torpeur, cela veut dire que l'esprit est trop lourd et il faut donner plus de clarté, plus de légèreté à l'esprit et il faut utiliser en général, en premier lieu, le corps. Le corps, c'est-à-dire on redresse l'esprit, on pose peut-être un pull si on a chaud, on médite les yeux, mais alors grand ouvert, lever plutôt vers le regard plutôt vers le haut, de façon à donner plus de clarté, plus de lucidité, de lumière, de luminosité à l'esprit. Par contre, quand l'esprit ne peut pas rester sur le support parce qu'il est toujours en train de suivre la moindre pensée qu'il traverse, ça veut dire que là, l'esprit est agité, il est trop léger. Alors, il faut l'alourdir. Donc là, on peut fermer les yeux ou regarder beaucoup plus bas et puis alourdir ou détendre un peu la posture. Quand ça ne suffit pas, il faut se lever et bouger. Mais en tout cas, il faut éviter de se laisser aller à la torpeur et à l'agitation. Pourquoi ? Parce que l'esprit prend très vite les habitudes, les bonnes, mais comme les mauvaises. Et on peut faire l'expérience que si on se laisse aller à la torpeur un jour dans la méditation, le lendemain, quand on va méditer, la torpeur va réapparaître. Et faites l'expérience. Je prends toujours cet exemple. Mais si vous méditez qu'au bout de 10 minutes, vous avez envie de boire un thé, et que vous vous levez pour boire un thé, eh bien, le lendemain, au bout de 10 minutes de méditation, l'image de la tasse de thé va réapparaître dans l'esprit. Hein. Alors, ça, ok, il prend peut-être cette mauvaise habitude, mais il prend de la même façon les bonnes habitudes aussi, ce qui est plutôt intéressant pour la pratique. Et c'est ça, en fait, l'entraînement de l'esprit. C'est l'habituer à fonctionner, à réagir autrement. Et bien sûr qu'il faut répéter cet entraînement. Mais cette transformation de l'esprit, elle est vraiment possible. Heureusement, parce que sinon, la libération, l'éveil, l'état de Bouddha, ça serait impossible à réaliser, quoi. Alors, dans cette situation, nous devons faire preuve de patience pour être capables de continuer. Alors, à la patience, moi j'ajouterais aussi la persévérance et la confiance. La confiance en la pratique, la confiance dans les instructions. Au départ, la confiance, elle peut être assez superficielle, c'est quelque chose qui nous intéresse, mais tant qu'on n'en a pas fait l'expérience, cette confiance, elle reste un peu superficielle. Il faut que cette confiance, elle se transforme en certitude. Et la certitude, elle vient par la persévérance, par l'entraînement de l'esprit. Le jour où on commence à sentir que notre esprit se modifie, c'est-à-dire qu'on ne réagit plus de la même façon, plus de façon aussi prompte, aussi réactive par rapport à telle situation, on se rend compte que l'esprit est plus patient, plus ouvert, plus détendu, plus à l'écoute, plus proche des autres, plus bienveillant, etc. Bon, là, on se dit, la méditation transforme l'esprit, ça apporte quelque chose. Et là, cette confiance dans la pratique, confiance dans les instructions, elle se transforme dans une certitude. Laquelle certitude, elle se base sur quoi ? Sur l'expérience. Et c'est pourquoi cette notion d'expérience dans la pratique du Dharma est tellement importante. Rappelez-vous toujours que le Bouddha disait, vous n'avez qu'un seul maître, vous-même. Faisons l'expérience des instructions. Faisons l'expérience de l'enseignement. Validons l'enseignement par notre expérience. Ne croyons pas, c'est-à-dire n'ayons pas la foi dans le bouddhisme par rapport à ce qu'a dit le Bouddha ou par rapport à ce que dit tel maître aujourd'hui. ayons confiance, si ça nous intéresse, ayons confiance, soyons dans l'écoute de l'enseignement, mais ensuite on doit passer à la réflexion. Comment je comprends cet enseignement? Comment est-ce que je peux intégrer l'enseignement à tout ce qui me constitue? Et à partir du moment où je le comprends, je dois passer à la méditation, c'est-à-dire je dois le mettre en pratique. Et comment entraîner mon esprit à appliquer cette instruction? Et je l'applique jusqu'à la transformation de mon esprit, jusqu'à ce que l'expérience s'élève. Mais c'est seule la méditation qui permettra à l'expérience de s'élever. Nous avons besoin de l'écoute, c'est pourquoi pendant les enseignements, il n'y a pas de questions, non, hein, que les questions se font après, c'est-à-dire au moment de la réflexion. Mais quand l'enseignement est donné, on doit être dans l'écoute, c'est-à-dire on doit être ouvert, réceptif à l'enseignement. Il n'y a pas à savoir si cet enseignement colle avec mes propres concepts et mes propres conditionnements. Ça, c'est le domaine de la réflexion. Donc après, dans la réflexion, c'est comment je comprends ça, est-ce que ça colle avec ma culture, est-ce que ça colle avec mes croyances, etc., avec ma façon de fonctionner, etc. Et cette réflexion, elle est nécessaire, mais elle ne doit pas se limiter à cette réflexion. Et en Occident, c'est souvent ça. On rumine beaucoup, on intellectualise beaucoup, on joue beaucoup sur les mots, on est là toujours à titiller sur le sens de ci, sur le sens de ça, on coupe les cheveux en quatre, etc. Et puis une fois que on n'a plus rien à couper, on a l'impression qu'on a tout intégré parce qu'on a vraiment compris ça intellectuellement. Or, intégrer veut dire transformer l'esprit. Et on voit bien que des personnes peuvent avoir une très grande compréhension intellectuelle de beaucoup de choses, mais leur comportement, leur vie est totalement à l'opposé de ce qu'ils ont compris. Et là, il y a la méditation qui manque. Et c'est seule la méditation qui va permettre la transformation de l'esprit. Donc, voilà pourquoi il y a besoin de patience, mais il y a besoin de persévérance et de confiance. La persévérance, souvenez-vous toujours du terme tibétain pour la persévérance, tsunru, c'est énergie enthousiaste. Alors n'oubliez pas l'enthousiasme pour la pratique. Si la pratique c'est synonyme de contrainte, vous n'êtes pas dans tsundru, vous n'êtes pas dans la persévérance, dans la diligence. Qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir de l'énergie enthousiaste pour la pratique, d'après vous?
Motivation.
Pardon?
La motivation.
Oui, laquelle?
L'éveil.
Oui, l'éveil. Bon, l'éveil, c'est... c'est bien. Tout de suite, qu'est-ce qui peut motiver, nous donner de l'énergie enthousiaste pour pratiquer.
Si on constate un changement.
Oui, la notion d'expérience, on voit que l'esprit, se transforme. Et puis...
Le souhait d'avancer dans la vie.
Pardon?
L'envie de vivre, le souhait d'avancer dans la vie.
Oui, mais quelquefois, vous savez, on peut rencontrer des difficultés, des obstacles, et la motivation, il y a des fois... qu'est-ce qui peut nous rebooster dans notre pratique?
Aller à l'US.
Bon, c'est sympa. Les centres du Dharma existent pour ça. C'est pour se ressourcer spirituellement, à la fois physiquement aussi, mais c'est pour se ressourcer spirituellement. C'est pour retrouver effectivement de l'énergie pour la pratique. Mais...
les grands maîtres.
Oui, la fréquentation des maîtres. Parce que les maîtres sont rayonnants de ces qualités, quoi. Ils sont rayonnants de patience, d'attention à autrui, on va dire d'amour, de compassion, de bienveillance, etc. Et ça peut nous inspirer jusqu'aux larmes, quoi. Et c'est pas de la dévotion naïve... j'allais dire cucu, quoi. Enfin, vous savez, cette dévotion stupide. Non, c'est... leur présence nous touche. Parce qu'en fait, on aspire à quoi? Mais on aspire à ça. Si vous êtes là ce soir, pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous êtes venu ce soir? Il y a bien quelque chose qui vous intéresse dans le dharma et qui vous inspire dans le dharma. Ce n'est pas votre famille qui vous a obligé ici, ce n'est pas des cours de... On ne vous envoie pas comme on nous envoyait quand on était gamin au catéchisme. Ce n'est pas notre culture qui nous pousse à nous intéresser à cette voie. Il y a bien quelque chose en nous qui trouve un certain intérêt. On aspire à quelque chose. Bien. Et en fait, la fréquentation des maîtres nous montre mais que cette transformation de l'esprit, elle est possible. Parce que c'est dans le texte qu'on a vu, par exemple, le week-end dernier, quelle est la différence entre un être éveillé et nous-mêmes? Aucune, fondamentalement aucune. L'être éveillé, il a parcouru tout le chemin. Nous, nous sommes encore en chemin. C'est la seule différence. Et ça, c'est très fort dans le dharma. Tout le monde a cette nature de Bouddha. Tous les êtres ont cette possibilité de se transformer jusqu'à se libérer de dukkha, cette libération qu'on appelle l'éveil. Tous les êtres ont ce potentiel. Il faut bien sûr des conditions pour travailler ce potentiel et l'actualiser, le réaliser. Hein? Mais c'est ce que l'on peut ressentir quand on est auprès du Dalai Lama, quand on est auprès du Karmapa, de Rinpoche, n'importe quel grand maître. Et ça, effectivement, je dis souvent, quand on est auprès d'un grand maître, le premier jour, on a encore nos préoccupations mondaines, le deuxième jour, un peu moins, puis le troisième jour, on ne pense qu'au dharma, qu'à la pratique, on se sent bien avec la pratique, etc. Le problème, c'est que quand on rentre chez soi, ça dure un jour, deux jours, le troisième jour, les tendances reviennent, le quatrième jour, si on n'est pas attentif, eh bien, on est en plein à nouveau dans nos tendances, et puis tout ce qu'on a ressenti, vécu, expérimenté... au cours du week-end, bah, ça ne tient plus. Quoi. Voilà. Ça, c'est parce qu'il y a les habitudes, les tendances de l'esprit eh bien, qui reprennent le dessus. Quoi. Donc après, Rinpoche explique que Shiné doit nous mener à la vision pénétrante. Alors au début du chapitre, il explique qu'il y a des écoles qui insistent beaucoup sur Shiné, la pacification mentale, et qui après passent à l'actangle, la vision supérieure. Nous, on est dans une école qui applique plutôt cette façon de faire. Il y a des écoles qui commencent plutôt par l'actangle, la vision pénétrante, vipassana, et puis qui ensuite vont stabiliser l'expérience de vipassana. Moi, j'ai un doute un peu sur cette démarche-là, parce que pour la vision pénétrante, il faut pouvoir observer l'esprit calme. Si on ne sait pas comment calmer l'esprit, je ne sais pas trop comment on peut observer l'esprit calme. Voilà. Et puis, il y a des écoles qui vont pratiquer les deux conjointement. Mais la plupart des écoles, en tout cas, fonctionnent d'abord Shiné, la pacification mentale, et ensuite l'actangle, la vision supérieure. Alors maintenant, comment appliquer la pleine conscience et la présence à ce qui est dans notre vie quotidienne? Rinpoche dit, cela doit être fait avec le sens de la mesure. Et ça, c'est très important. Il prend un exemple. Je connais une institution bouddhiste dont les membres sont si conscients et présents que vous ne pouvez pas avoir de réponse à vos appels téléphoniques. Pourquoi? La personne responsable entend la sonnerie du téléphone et est consciente et présente à tout ce qui arrive. Le téléphone sonne. Je suis conscient que le téléphone sonne. Je dois être conscient et présent. Maintenant, je me lève et maintenant, je marche vers le téléphone. Au moment où elle est prête à décrocher, le téléphone s'est arrêté de sonner depuis assez longtemps, dit Rinpoche. Et ça, vous avez beaucoup de ce genre de problèmes, quoi. Vous savez, c'est ce que j'appelle un peu les zombies du dharma, quoi. Vous avez des personnes qui prennent une attitude, mais alors totalement artificielle, parce qu'elles pratiquent l'attention. Alors elles commencent à marcher comme sur des œufs, très lentement. Tous leurs gestes sont très lents. Sourire béat, en général, je suis très attentif, très attentif, très attentif. Je n'ai jamais vu un Rinpoche comme ça, quoi. Je n'ai jamais vu le Dalai Lama avoir ce genre d'attitude. Et dans les centres, vous en rencontrez des gens comme ça, quoi. Mais vraiment, quoi. Vous avez envie de les secouer en disant, attends, médite mais sois naturel, quoi. C'est jamais vu. On n'est pas obligé de devenir totalement artificiel. Vous savez, c'est l'histoire du bus, hein, je vous ai peut-être raconté un jour où j'étais en Inde et on devait faire 14 heures de bus. Et alors le chauffeur s'est trompé, donc on avait 3 heures de plus à faire, on était tous crevés, c'était dans l'Himalaya, etc. Et alors il y avait comme ça une personne, un peu zombie du Dharma, dans le bus, tous deux blancs vêtus, et toujours avec ce sourire-là, « Oh, je m'accroche à rien, je m'accroche à rien ». Puis alors j'étais dedans, et elle me dit « Namatsu Trim, vous êtes dans le Mahamudra ?» Ah, je lui dis « Non, je suis dans le bus, et j'en ai marre !» Parce que je trouvais que c'était logique d'en avoir marre au bout de 17 heures de bus, quoi. Il n'y a pas besoin... Voilà, vous pouvez en avoir marre, mais ne pas être accroché à votre fatigue ou au fait d'en avoir marre. Il n'y a pas besoin de devenir une espèce de légume comme ça, anesthésié, parce que vous pratiquez l'attention, quoi. Et... ouais... Ça peut se rencontrer, en tout cas, des personnes comme ça dans certains centres. Voilà. Donc dans ce cas, dans cet exemple-là, Rinpoche conclut, la pleine conscience est géniale, mais peut-être que là, c'est aller un peu loin, quoi. Introduire la pleine conscience et la présence à ce qui est dans votre vie quotidienne consiste à être conscient et présent à ce que nous sommes et à ce que nous faisons. Un maître zen a dit « Quand je mange, je mange, et quand je dors, je dors. Ce n'est pas ce que nous faisons habituellement. Je me lave les dents et je ne sais pas où est mon esprit. Je mange et je ne peux me rappeler ce que j'ai mangé. Nous ne sommes pas là. Nous devrions donc essayer de ne faire qu'un avec chacun de nos actes. » Et il conclut en disant « Si nous sommes présents au moment où nous faisons quelque chose, nous pouvons nous en occuper de manière beaucoup plus claire et efficace. » Et dès que nous le laissons, nous devrions le lâcher. Nous pouvons nous reposer. Rien ne nous force à tout le temps transporter quelque chose dans notre esprit. C'est la raison pour laquelle nous sommes si tendus et stressés. Nous transportons continuellement un problème dans notre esprit. Alors, quand nous faisons un rituel, nous devrions faire un rituel. Quand nous travaillons, nous devrions travailler. Nous n'avons pas besoin d'y amener des problèmes. Si nous avons à nous occuper d'un problème, nous devrions nous en occuper. Une fois que nous pourrons appliquer ce principe à notre vie, nous aurons beaucoup moins de problèmes. Et ça, c'est très vrai, quoi. Hein? Combien de problèmes, eh bien, nous transportons avec nous. Même quand le problème est résolu, on est là encore en train de ressasser à ça et d'en parler, etc. Alors, c'est pour ça que... Mais ça demande une attention. Ça demande l'établissement de l'attention dans l'esprit. Et pas l'attention uniquement à ce que je fais. L'attention à ce qui se passe dans mon esprit. Comment mon esprit réagit. Et c'est pourquoi, pour établir cette attention, quand on va dans un centre du Dharma, eh bien, il faut que les conditions soient favorables pour l'établissement de cette attention. Et c'est pourquoi, par exemple, on a établi maintenant, pas dans Mahamudra 1, mais dans Mahamudra 2 et 3, que les week-ends se passent en silence. Parce que, pendant les sessions de méditation, quand on a 2 heures de pratique, d'accord, on a besoin de se détendre après. Mais nous devons nous apprendre à nous détendre tout en maintenant l'attention présente dans notre esprit. Or, bien souvent, ce qui se passe, c'est qu'on sort du temple, et alors c'est le défouloir, quoi. Et on parle de ci, et on parle de ça, et il faut qu'on s'occupe de l'autre, et il faut qu'on fasse ça, il faut que... Alors, quand vous êtes 30 personnes, hein, ça fait du bruit, quoi. Et il n'y a absolument plus d'attention. L'établissement d'attention qu'on a pu faire pendant les 2 heures de méditation, en 2 minutes, c'est totalement envolé, disparu dans la post-méditation. Or, cette attention, elle doit être présente constamment. Constamment. On a besoin de cette attention dans notre activité. On ne peut pas passer notre vie assis sur notre coussin. Il faut que cette attention soit présente aussi dans notre activité. Et c'est pour ça que, par exemple, à Luce, il y a le lécor. Le lécor, c'est l'activité. Il y a 1 heure et demie de lécor en fin de matinée. Ce n'est pas parce qu'on a besoin de femme de ménage ou besoin de quelqu'un qui aide à la cuisine. C'est pour s'entraîner à maintenir l'attention qu'on a développée assis sur notre coussin dans l'activité. En passant l'aspirateur, en faisant le ménage ou en aidant à la cuisine, en faisant l'épluche par exemple, comment est mon esprit ? Si on fait ça en discutant à droite et à gauche, l'attention n'est plus présente. Et ça, c'est l'entraînement de la méditation dans la phase post-méditative. Et de façon à ce que quand vous rentrez chez vous le dimanche soir, il y a eu un entraînement de la méditation en activité pour la maintenir aussi dans votre vie quotidienne. Et ça c'est très important. Et en fait, Marie-Yvonne, tu étais le week-end dernier, ça s'est bien passé, le week-end en silence.
Le premier jour, je me sentais bizarre par rapport à des personnes qu'on connaissait, on a envie de savoir comment ça va, etc.
Oui.
Mais alors, au bout de deux jours, c'est la première fois que je dis ça, mais je trouve que c'est vraiment très, 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 très bien.
Oui, oui. Mais après, on a même besoin de ce silence,
oui.
etc. Et le problème à Luce, c'est que les personnes qui, dans les intercessions, veulent aller dans le temple, eh bien, vous avez le salon qui est à côté du temple, quoi. Et alors, quand vous avez 10 personnes qui discutent dans le salon, pour les personnes qui sont dans le temple, qui veulent un peu de calme, etc., vous avez des personnes qui viennent et qui ont vraiment envie de pratiquer. Donc, il faut qu'il y ait l'environnement favorable à la pratique. Et vous savez, on ne sait pas ce que vivent les personnes quand elles viennent, même si on les connaît. On ne sait pas. Il y a des personnes, dimanche dernier, il y avait une personne, son fils est mort, quoi. Elle le dit pas forcément, mais elle avait peut-être besoin d'être à Luce pour souffler, quoi, par rapport à sa souffrance, etc., quoi. Et donc, il y a une autre personne, on vient de découvrir une maladie, quoi, chez elle. Donc, elle était complètement stressée, elle avait besoin d'être au calme, etc. Ça fait partie de ce qu'on appelle la bodhicitta. C'est une façon de prendre soin de l'autre. Prendre soin de l'autre, c'est pas toujours être là à discuter gentiment avec elle, etc. C'est aussi, tenir compte de ses besoins éventuels, mais plus loin que dans le contact. Elle a peut-être besoin de silence. Elle est venue peut-être aussi pour vivre un peu de silence. Ça ne retire pas la convivialité, les gestes, le regard, le sourire, etc. Mais ça permet en tout cas d'établir l'attention et de la maintenir dans l'esprit. Donc ça, il faut vraiment s'entraîner à ça. Et même dans notre vie quotidienne, en semaine, on a établi ça entre nous. Et il y a vraiment... par exemple, la différence de rythme aussi. Il y a quelqu'un, par exemple, qui descend l'escalier toujours en courant, quoi. Eh bien, si on est conscient de ça et qu'on se dit « mais attends, je ralentis », immédiatement, il y a quelque chose qui se passe dans l'esprit, par simplement le changement de rythme. Et je trouve qu'on est très stressé dans notre pays, mais parce qu'on vit dans cette précipitation et la tête dans le guidon, quoi. Je suis d'accord, il y a un mouvement qui fait qu'on doit vivre comme ça. Il y a un mouvement qui nous entraîne à ça. Mais... en tant que simplement être humain, est-ce qu'on est obligé de suivre le mouvement tout le temps, comme un petit mouton qui file à l'abattoir? Ou est-ce que de temps en temps, on ne peut pas se dire, attends, mais où je suis là? Et je peux rectifier ça. Et je peux prendre peut-être un autre rythme. Et à ce moment-là, on voit que, il y a quelque chose qui se passe dans notre esprit. Soyons maîtres de ce que nous faisons. Donc voilà, ça c'était un peu la conclusion de Rinpoche. Et là se termine le dernier chapitre sur le Shravakayana. Et le mois prochain, on commencera le chapitre sur le Mahayana, le grand véhicule qui s'appuie sur les sutras. Et pour décrire vraiment ce qu'est le grand véhicule, Rinpoche s'appuie sur un texte que j'aime beaucoup, qui est les 37 pratiques de Bodhisattva. Voilà. Est-ce que vous avez maintenant des questions ? Si vous n'en avez pas, moi j'en ai une. Hein. Comment va la mort? Pour ceux qui n'étaient pas là, c'était l'exercice du mois dernier. Parce que dans le bouddhisme, on parle beaucoup de l'impermanence, beaucoup de l'impermanence, l'instabilité de toute chose, le changement continuel de toute chose, mais aussi notre propre impermanence. Et notre propre impermanence, oui, on est tous d'accord qu'on est tous mortels, mais personne n'y croit vraiment. Enfin, fondamentalement, on le sait, quoi. Mais si ça arrivait demain, on serait vraiment affolé et extrêmement surpris, quoi. Donc l'exercice, ça consistait à se dire tous les matins, eh bien, si vraiment je dois mourir ce soir, mais de quoi ai-je besoin? Qu'est-ce que je souhaiterais, etc. Et la plupart d'entre vous, vous avez dit, je souhaiterais être serein, être calme, en paix, serein. Donc à partir de là, c'est intéressant de réfléchir à ce qu'on pourrait mettre en place au cours de cette journée pour, si je dois mourir ce soir, eh bien, mourir sereinement. Tout en sachant que si je dois aller travailler, eh bien, je vais travailler. Si j'ai mes enfants, j'ai mes enfants, etc. Je ne peux rien modifier de tout ça. Mais par contre, sur quoi je peux travailler pour que mon esprit soit plus serein? Voilà. Et donc, je ne sais pas si vous êtes entraîné à cela pendant le mois, mais en tout cas, continuez, quoi. Mais je pense que ça, ça peut nous amener à avoir une réflexion plus concrète sur notre mort, quoi.
Vous avez évoqué tout à l'heure l'analyse en disant que l'analyse n'est pas très recommandable au cours de la méditation. Et pourtant, dans ma propre expérience, il me semble qu'il y a des moments dans la méditation où l'analyse prend une place, profitant d'une clarté particulière, en fait, où le mental n'est plus brouillon, mais où il est dans un espace clarifié, et où une analyse est possible.
Une analyse par rapport à quoi?
Par rapport à une situation, par rapport même à une sorte de dialogue intérieur, ou avec...
Je ne disais pas que l'analyse n'avait pas sa place. Elle a sa place, mais elle doit déboucher sur quelque chose. Elle doit déboucher sur l'entraînement. Comment est-ce que, à partir de cette compréhension, je peux mettre en pratique cela, cette compréhension-là, comment je peux la vivre et m'entraîner à la vivre. Ça, c'est un point important, parce que si on reste dans l'analyse, il n'y a pas la transformation de l'esprit. Mais par contre, l'analyse, elle a sa place, elle a son importance.
Dans la méditation?
Dans la méditation, oui. Et notamment dans la méditation de l'Aktong, par exemple, la vision pénétrante, là, on est obligé de passer par cette approche analytique sur la nature de l'esprit, quoi. Le non-soi de l'individu et le non-soi des phénomènes, ça passe par, quand même, une compréhension et une analyse. Mais à un moment donné, quand... cette analyse, elle aboutit à une compréhension claire, nette, et on voit vraiment les choses comme ça, et c'est pour ça qu'on appelle ça la vue, d'ailleurs, eh bien, on doit la laisser tomber, mais la vue, cette compréhension, on doit ensuite l'appliquer. Et ça, c'est vraiment l'entraînement, c'est vraiment la méditation. Voilà. Mais Bokhara Rinpoche, par exemple, trouvait que les Occidentaux, alors qu'on mouline hein, quand même pas mal, mais il trouvait qu'on passait trop vite sur l'analyse concernant la vision supérieure, par exemple. Ouais. Parce qu'on sait, l'esprit est vacuité, l'esprit n'a pas de forme, l'esprit n'a pas de couleur, on le sait, bon, ok. Mais est-ce que j'en suis profondément convaincu? Voilà. Et là, jusqu'à cette conviction, on a besoin eh bien, de l'analyse. Autre chose. Colmar, vous n'êtes jamais très bavard. Hein. Il y a des chelings, ça n'arrête pas, mais alors à Colmar, ça, c'est calme. Alors, vous savez que tout à l'heure, hein, j'expliquais, je ne sais pas si tout le monde était là, le Karmapa. Alors, le Karmapa, c'est l'équivalent du Dalai Lama pour notre école. Donc, le Karmapa, qui a 30 ans, vient à Genève, les 20, 21 ou 21, 22, je ne sais plus, enfin, c'est le week-end, mai, 20, 21 mai. Donc ça, si ça vous intéresse, si vous voulez y aller, il faut absolument aller sur le site Karmapa Genève et attendre que le site ouvre les inscriptions. Quoi.
Voilà. J'ai aussi vu que le Dalai Lama venait en septembre.
À Strasbourg, oui.
Est-ce qu'on peut s'inscrire?
Alors, ce n'est pas encore ouvert. Mais alors, guettez, hein, parce que ça va, le jour où ça va ouvrir les inscriptions, le soir même, il n'y en aura plus. Quoi.
Hein. C'est pour le week-end, j'ai vu que c'était un week-end.
Oui, 17 et 18 septembre.
C'est l'inscription vaut pour les deux jours.
Oui. Vous pouvez venir une seule journée, hein, si vous souhaitez. Hein. Mais, oui. Et il y a 9800 places. Ça paraît beaucoup, et en fait, c'est peu, quoi. À Paris, quand il est venu, c'était Bercy. Hein,
qui était, à Bâle, il y avait plus de places ou moins qu'à Strasbourg.
Où ça?
À Bâle.
À Genève.
Non, c'était à Bâle. Ça, je n'y étais pas. Alors ça, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas.
Ouais. À Bâle, c'est
l'année dernière. Comment?
C'est l'année dernière qu'il était à Bâle.
Oui, Bâle, oui. Ah, oui.
Parce qu'il y, avait il y a quand même eu des places pendant 3 jours presque.
D'accord.
Bon. C'est pour ça que je me pose la question.
Non, mais c'est bien, oui.
Est-ce qu'on connaît les sujets?
Oui, Dalai Lama, il donnera un enseignement sur un texte de Nagarjuna. Donc, c'est sur la vacuité, hein, ça c'est sûr, la nature de l'esprit. Et il donnera l'initiation de Chenrezig. Les organisateurs, on ne voulait pas trop qu'ils donnent une initiation parce que c'est tout un bins, c'est pas possible au niveau du rituel. Et voilà. Mais c'est lui qui a imposé.
Et dimanche après-midi, c'est une conférence?
Je ne sais plus le programme.
C'est une conférence sur les interreligions, les choses comme ça, la compassion dans toutes les religions. En fait.
La compassion dans, dans l'interreligieux.
C'est sur d'accord. Les interreligions, je crois.
Ah ouais.
Je ne sais plus le terme exact, le titre exact, mais
d'accord. C'est par rapport à ça. En tout cas, il y aura quelque chose comme 200 moines, il y a plusieurs Rinpoche qui vont être là, dont Ringo Rinpoche. Il veut absolument venir.
Il faut s'inscrire sur le site du Zénith alors
ou... alors là, le site que tout à l'heure je donnais, c'était pour le Karmapa. Là, il faut taper Dalai Lama Strasbourg, quelque chose comme ça. Voilà. Alors, pour Rinpoche qui vient en avril à Luce, il vient le 30 avril et 1er mai, on va lui demander sans doute de développer ce qu'on appelle les 4 incommensurables. Comment mettre en pratique dans notre quotidien l'amour, la compassion, la joie et l'équanimité? Qu'on appelle les 4 qualités incommensurables. Et le maire de Luce a demandé à ce qu'il fasse une conférence publique à Luce, à la salle des fêtes de Luce, le samedi soir. Voilà. Bon, cette année, il y a pas mal de choses.
Nous sommes gâtés.
Ouais. Voilà. Autre chose? Plus rien? Donc on va faire la dédicace. Par cette vertu, puissais-je promptement réaliser le Mahamudra et sans l'exclusion d'un seul, établir en cet état tous les êtres. Merci à tous. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que les inscriptions pour le séminaire international de Rinpoche à Porto, c'est ouvert. Hein. Ceux qui sont intéressés, vous pouvez vous inscrire. Et plus vous prenez vos billets d'avion tôt, moins c'est coûteux. Quoi. C'est la première semaine d'août, hein, du 1er au 7 août.